Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Quel couple peut dire qu'il sait aimer? Quel couple peut dire qu'il sait communiquer? Chamaillerie, querelle même, la vie de couple est rarement un long fleuve tranquille. Mais quand un couple cherche de l'aide autour de lui, les aides sont difficiles à trouver. En parler en famille, difficile, voire nuisible. En parler avec des amis, encore faut-il qu'ils soient sages et que cela ne devienne pas trop lourd pour eux. Reste le thérapeute conjugal et des mouvements d'église, comme Vivre et Aimer, une formule spéciale couple vieille de plus de 40 ans d'expérience et maintenant largement éprouvée, une formule que je vous propose de découvrir ensemble ce matin. Voilà pour cette émission Vivante Église, donc sur Vivre et Aimer, un mouvement au service des couples. Alors il y en a beaucoup des mouvements au service des couples, mais en tout cas aujourd'hui on va mettre un coup de projecteur sur ce mouvement. Je reçois ce matin Marie-Françoise et Gérard Crépin. Bonjour, vous
Bonjour.
Êtes responsables donc, de Vivre et Aimer pour Midi-Pyrénées. Et Patrick et Anne-Marie Robert Crété,
oui.
Je vais y arriver. Vous êtes membre de Vivre et Aimer, bonjour.
Bonjour.
Alors, vivre et aimer, on va commencer peut-être par faire un petit peu d'histoire, ou si d'un mot vous deviez résumer ce que c'est, peut-être vous, Gérard Crépin, puisque vous êtes le grand chef de Midi-Pyrénées, d'un mot, ça serait quoi, vivre et aimer? De quelques mots, vous avez le droit à plusieurs mots.
Merci. Vivre et aimer, c'est effectivement un mouvement qui est au service des couples, pour une meilleure communication dans le couple, pour pouvoir raviver au fur et à mesure les couleurs de notre couple dans la vie quotidienne, dans la vie concrète.
Voilà, tout est dit ou presque, et on va maintenant un petit peu développer tout ça. Toujours est-il que Vivre Aimer n'est pas né hier. Si on remonte même aux origines, en fait, ça s'est né dans les années 60, autour d'un prêtre espagnol qui s'appelait le père Calvo. Alors c'est vous qui allez nous faire un peu une page d'histoire, Anne-Marie Crété. Qu'est-ce qui a pris à ce prêtre de vouloir créer, non pas ce mouvement au départ évidemment, mais en tout cas des premières rencontres?
Oui, ce prêtre, un jésuite, il s'occupait de jeunes, et dans les difficultés des jeunes, il s'est aperçu qu'en fait, il ressentait les difficultés des couples, de leurs parents, et que du coup, ce prêtre s'est demandé s'il ne fallait pas s'occuper aussi des parents, de la communication des parents, raviver les couples, raviver la communication dans le couple et du coup, communication aussi avec les jeunes. Ce mouvement qui est un mouvement de couple, en fait, il s'est transmis de jésuite en jésuite, puisque c'est un autre jésuite qui est parti aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, ce mouvement s'est vraiment formé, s'est concrétisé.
Donc pas très longtemps après, c'est ça?
Pas
toujours
très
dans
longtemps
les années 60,
après, hein. 60, c'était en Espagne, et en 67, c'est arrivé aux États-Unis. Et c'est vrai que là, le mouvement a pris sa forme, a pris la forme qu'on lui connaît actuellement, les sessions, les différents...
Alors on y reviendra, oui, parce que globalement, c'est donc des sessions à l'occasion de week-end, c'est ça? C'est l'espèce de centrifugeuse, entre guillemets, où on fait...
Oui, centrifugeuse, c'est peut-être un peu violent, parce que justement, j'allais parler de la
très
grande délicatesse et de la...
Voilà, heureusement que vous êtes là.
Oui, de l'effet très progressif. On ne nous assomme pas, non, on a vécu, on a survécu surtout.
Et puis c'est plutôt un recentrage qu'une centrifugeuse.
Oui, voilà, c'est un recentrage.
Alors j'ai une question, juste le fait que c'était fondé par des jésuites, est-ce que ça a quelque incidence sur la manière dont la méthodologie du mouvement? C'est que les jésuites, c'est vraiment les grands pros de la relecture de vie, de...
Oui, justement, en fait, dans notre mouvement, dans les sessions, on invite les gens à vraiment relire leur quotidien de vie de couple. Et puis après, pour ceux qui sont croyants, ils peuvent trouver l'éclairage avec la parole de Dieu. Voilà comment la parole de Dieu s'incarne dans ce quotidien. Mais vraiment, dans notre mouvement, on part du concret de la vie de couple. Quoi, vraiment dans des choses basiques, ça peut être une situation qu'on a vécue à la cuisine ou dans une voiture, enfin voilà.
Donc c'est peut-être pas pour rien que ça a été fondé par des jésuites en tout cas, parce qu'on sait que c'est vraiment les grands spécialistes de la relecture de vie. Alors si on continue cette histoire, donc ça prend aux États-Unis. Au début, ça s'appelle Marriage Encounter, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire, en fait, nous,
se rencontrer à l'intérieur du mariage,
voilà, c'est ça, se rencontrer à l'intérieur du mariage. Et ensuite, c'est arrivé en Belgique, puisque le cardinal Suenens avait vécu un week-end aux États-Unis et il l'a ramené. Et donc, avec un autre prêtre, il a organisé des week-ends. Et puis de là, la frontière était
poreuse.
Poreuse, complètement poreuse. Et donc, ça a commencé dans le nord de la France. Et c'est vrai que le fait d'offrir à des couples de réfléchir à leur communication, de leur donner des nouveaux outils de communication, de les aider pendant une session, finalement, c'était un tel besoin à l'époque que c'est parti après comme une traînée de poudre dans
France. Donc, c'est arrivé en France donc, dans les années, au début des années 70.
Oui.
Je ne sais pas s'il y avait grand-chose en fait en matière de dialogue conjugal, non? En tout cas, on entend souvent aujourd'hui parler d'alpha couple, mais ça n'existait pas, évidemment.
Non.
Les équipes Notre-Dame, ça devait être les débuts, si, quand même. Ça a commencé dans les années 60.
Ouais.
Oui. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc,
non.
En
non.
tout cas, c'était
c'est
pionnier.
Complémentaire.
C'était pionnier.
Voilà. Voilà, voilà. Vous avez parlé de... Marie-France a parlé des couples qui peuvent retrouver après dans leur foi. Ce que j'aime beaucoup dans le mouvement Vivre et Aimer, c'est qu'il est ouvert aussi à d'autres couples qui n'ont pas obligatoirement la foi. Ce mouvement leur fait profiter de tout ce qu'on a découvert, de tout ce qui nous porte, hein, l'évangile et autres, mais on n'assomme pas les couples avec notre foi, et c'est ouvert à beaucoup de couples à qui on ne demande pas le niveau de la foi. Je trouve que c'est important.
Et de fait, Gérard Crépin, est-ce que, je sais pas, il y a une bonne partie des couples qui viennent à vos sessions qui ne sont pas spécialement catholiques pratiquants ou...
Tout à fait. Et ils s'y sentent à l'aise, parce qu'effectivement, ils ne sont pas assommés, comme disait Anne-Marie.
Vous voilà. Avez quoi? C'est quoi? C'est la moitié des gens qui viennent, du coup? Ou c'est un tiers? Ou on peut avoir une idée un peu ou...
On va dire quand même que bon, Vivre et Aimer est surtout connu par les canaux ecclésiaux et par les canaux familiaux. Alors donc, ça va être plutôt dans la famille qu'effectivement, on va pouvoir expliquer à tel et tel couple qu'on aime beaucoup dans notre famille ou de nos amis. Bon, qu'est-ce que c'est que vivre et aimer? Et bon, bien sûr, il y a cette connotation catholique qui peut être rebutante pour certains, mais pour d'autres, bon, ben, ils vont faire le pas. Et effectivement, dans la mesure où ce n'est pas basé sur l'écriture pour aller voir ce qui se passe dans ma vie, mais que c'est basé dans ma vie pour éventuellement, si je suis réceptif, voir l'éclairage de Dieu dans ma vie, dans la mesure où c'est dans ce sens-là, eh bien c'est tout à fait vivable pour des gens qui sont soit agnostiques, soit en recherche.
Voilà, on y reviendra sur cette méthodologie hein, où on part, on va dire, par le bas, on part de la vie des gens, et c'est vrai que ça ressemble aussi, évidemment, à, comment dire, à la spiritualité ignatienne. Alors, il ne s'agit pas de faire tout le temps des parallèles, mais en tout cas, ça peut être assez frappant. Pour la France, après, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le développement? Donc, il y a ces premiers week-ends, donc en 1973,
oui.
Et puis après, ça, quoi, ça a cessé de grandir.
À partir de 87, ce mouvement s'est ouvert aussi aux fiancés, aux jeunes qui n'ont pas encore pris la décision de s'engager, à ceux qui n'ont pas encore trop vécu en couple et qui veulent se poser des questions. Est-ce qu'ils vont s'engager? Sur quelle base ils vont s'engager? Et là, on retrouve parfois nos enfants. Voilà, nos enfants qui nous disent ah ben tiens, au fait, on est allé faire un mariage engagement, vivre et engagement là,
amour et engagement.
Ça y est, je vais y arriver. Et puis qui après nous annonce qu'ils sont fiancés, qu'ils se marient. Voilà, là aussi c'est un petit peu dans les familles, dans les relations, et puis les jeunes entre eux aussi après.
Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'état du développement aujourd'hui de ce mouvement? Donc il est présent sur 5 continents, dans plus de 70 pays. Quid de l'Europe ou de la France? Est-ce que vous avez des idées?
Oui,
ou des,
alors
des chiffres?
C'est un mouvement qui est actif effectivement dans le monde, et donc on peut déjà citer quelques chiffres dans Midi-Pyrénées. 100 couples adhérents, 2 prêtres et 20 couples animateurs sur Midi-Pyrénées. Et en France, il y a 3200 couples adhérents, 65 prêtres et religieux et 475 couples animateurs. Et la France organise une quarantaine de sessions par an. Voilà. Mais après, en Europe aussi, il y a 40 000 couples adhérents et 2400 religieux. Et depuis 1967, il y a eu dans le monde 600 000 couples qui ont suivi une session ou un week-end. Voilà. Et 9 000 religieux aussi.
Voilà, 600 000 couples et peut-être bientôt vous. On donnera les dates de la prochaine session. Avant qu'on fasse une première pause musicale, il faut donc préciser une dernière chose. C'est donc ces sessions week-end donc, sont ouvertes non seulement aux couples, mais aussi aux prêtres et aux religieuses. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu une explication, Gérard Crépin, sur cette particularité?
Voilà, et bien c'est que les... il s'agit donc de se découvrir soi-même et se découvrir dans la relation à l'autre. Et pour les prêtres et les religieux religieuses, c'est aussi important que nous, je veux dire, entre mari et femme. Et donc, voilà, c'est cette démarche profondément humaine qui est offerte aux prêtres, aux religieux et aux religieuses.
Et c'est le cas depuis le départ, en fait? Depuis le départ, il y a des prêtres, des religieuses qui participent?
Et c'est le cas depuis le départ. Et bon, c'est quelque chose auquel ils ne sont pas habitués, mais qui leur fait un bien fou.
Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début, tant d'azur perdu. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut ravoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Matisse, l'amour, c'est bleu difficile, les caresses rouges fragiles, le soleil de la ville est tabasse, et alors elle passe. Allez, à la machine. Le rouge pour faire tomber la misère de nos gentils petits grands-pères, noir les mains dans les boucles blondes, tout autour du monde. Passez notre amour à la machine, faites bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Allez,
Voilà, ce matin, donc, cette émission Vivante Église sur Vivre et Aimer, un mouvement au service des couples avec Marie-Françoise et Gérard Crépin, c'est ça, responsable donc de Vivre et Aimer pour Midi-Pyrénées, et Patrick et Anne-Marie Robert Crété, qui sont un couple, donc membre de ce même mouvement. C'est un mouvement d'église, et qu'est-ce que ça veut dire, c'est un mouvement d'église, en fait? C'est-à-dire que vous êtes rattaché, en fait, à un diocèse à chaque fois, ou Gérard Crépin, que signifie cette précision, mouvement d'église?
Oh, c'est au niveau international et au niveau national, bien sûr, que nous sommes un mouvement d'église. À chaque pays, il y a une équipe nationale qui est composée de un couple et un prêtre. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, le prêtre n'est pas là pour avoir le regard de l'ecclésial, hein, ni la signature, le blanc-seing de l'Église catholique, mais c'est que ce couple qui lui-même est catholique et ce prêtre vont ensemble faire en sorte que le mouvement reste attaché à ses valeurs de l'Église. En somme, le mouvement, ça s'appelle en fait « Vivre et aimer comme je vous ai aimé ».
Alors, précision faite, maintenant on va essayer d'aider nos auditeurs à vivre comme en raccourci un petit peu ce qui peut se vivre pendant cette session, pour leur mettre l'eau à la bouche et puis pour leur donner envie de venir à l'une de vos sessions. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble un week-end type? Alors, on donnera les dates, hein, à la fin de l'émission de la prochaine session. À quoi ressemble un week-end type? C'est-à-dire que donc vous prenez les couples du samedi matin, c'est ça, au dimanche soir?
Non
pas du tout. Vous commencez dès le vendredi soir, c'est ça?
Voilà. Oui. Bravo. Oui. On accueille les couples le vendredi soir. À 20h30, il faut qu'ils soient tous arrivés. Et c'est vrai que l'accueil est une partie très importante, parce qu'il est chaleureux, tout y est pensé avec gentillesse, avec simplicité. On installe les couples, on leur donne aussi tous les renseignements concernant ce week-end. Il y a des tas de petites choses qui sont là pour qu'on lâche prise. Par exemple, il y a des petits points de restauration un peu partout. Il y a aussi une table à certains endroits où on trouve tout ce qu'on peut avoir oublié dans nos valises. Donc là, on arrive, c'est lâcher prise, on est accueilli, vraiment. Le vendredi soir, on commence à travailler un petit peu, ce qui fait que finalement, quand on ressort le samedi matin, on est en forme et on est déjà dans le mouvement. Et là, les couples nous reçoivent et nous guident, nous font travailler un petit peu. Et voilà, et ça va se passer tout le samedi, tout le dimanche.
Alors justement, après, donc vous avez cette précision faite donc sur l'importance de l'accueil et le fait que ça court du vendredi au samedi. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le fil rouge du week-end? Donc il y a un couple, c'est ça, ou deux couples qui sont en charge en fait d'animer ce parcours?
Alors en fait, il y a trois couples et un prêtre qui vont animer donc tout au long de la session. Et donc ils vont
parler à la première personne, c'est ça,
ou... Voilà, ils vont vraiment, alors il y a de la théorie certes, mais je dirais à 20% de ce qui est partagé, et 80% c'est vraiment des témoignages qu'ils ont qu'ils donnent de leur vie propre, vraiment. Et c'est vraiment la force du mouvement. Enfin, je sais que quand j'ai vécu la session, moi, j'ai été vraiment touchée de voir à quel point les couples se donnaient, se dévoilaient. Mais ça nous permet, nous, auditeurs, à ce moment-là, de faire la même démarche, d'aller vraiment au fond, de ne pas rester à des thèmes généraux ou à des grandes idées, mais de vraiment aller voir dans nos vies ce que nous vivons, nous aussi, quoi.
Alors, il y a quelques fondamentaux pendant ces sessions, donc d'apprendre à nommer ses sentiments, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques-uns de ces fondamentaux, Gérard Crépin?
Voilà. Vivre et aimer, c'est beaucoup basé justement sur apprendre à reconnaître ses sentiments. On n'en a pas l'habitude. Apprendre à les reconnaître, apprendre à les dire aussi à notre conjoint pour être plus proche l'un de l'autre. Voilà. Il y a aussi la rencontre de soi, donc se rendre compte de ses qualités que quelquefois on a bien du mal à s'attribuer, hein. On est beaucoup plus tenté de souligner à soi-même, à ses propres yeux, ses défauts. Appelons-les plutôt ici les limites. Hein, et ces limites, bon, bah, je vais aussi les reconnaître et pouvoir les partager avec mon conjoint qui va avoir un œil aimant. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai découvert aussi à la session, c'est qu'en définitive, j'avais un petit peu peur du regard de mon conjoint, et puis ben, je me suis aperçu que j'avais tort. Voilà.
Voilà, après, il y a d'autres fondamentaux, l'écoute et la confiance. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots avant qu'on détaille un petit peu ?
Eh bien, l'écoute, effectivement... On nous aide à avoir une écoute active, c'est-à-dire une écoute où on est vraiment à l'écoute de son conjoint, c'est-à-dire on fait taire nos propres sentiments, nos propres paroles, pour vraiment être tout à l'écoute de ce que le conjoint va nous confier. Après, on essaye aussi de reformuler ce que le conjoint nous a confié pour être sûr que l'on a bien compris et qu'il a bien aussi exprimé ce qu'il souhaitait partager.
Parce que souvent, dans la vie de couple, bon ben, on se connaît depuis des années et on pense bien connaître l'autre. Et en définitive, on projette, c'est comme d'habitude, ça va être comme ci, parce qu'elle est comme ça, et puis que forcément elle pense ça. Et en fait, quand on est vraiment à l'écoute parce qu'on a pris les moyens de l'être, on se rend compte que bien souvent, on se trompait. C'était pas tout à fait ça, et même quelquefois pas ça du tout.
Alors on y reviendra après sur, sur cette connaissance de soi, sur le fait d'apprendre à dialoguer en nommant ses sentiments, etc. Ce que je voulais juste voir avec vous aussi, c'est que donc vous commencez, je ne sais pas si c'est une introduction, en tout cas vous vouliez en parler, vous détendez les couples en leur expliquant qu'en fait il y a des phases en fait, dans la vie de couple, qu'il faut en avoir conscience. Et vous explicitez ces phases. Alors, c'est quelque chose qu'on a parfois l'habitude d'entendre. Hein. Il y a pas mal d'émissions à cette antenne, parfois autour de ces thématiques, mais ça vaut le coup de le redire. Quelles sont ces grandes phases et qu'est-ce que vous leur dites pour essayer de les détendre ?
Bon, c'est pour détendre les couples, mais c'est aussi pour leur donner l'occasion de relire leur histoire qui commence toujours bien, qui commence par une période de romance, hein, où on se sent vraiment en communion avec l'autre et porté et plein d'avenir, plein de projets. Et puis, le fait est qu'au bout de quelques temps, de quelques années, on a une petite ou une grande désillusion, où en fait, en définitive, on s'entend bien, on fait tout ce qu'il y a à faire. Mais bon, c'est un petit peu la routine qui s'est installée, voilà. Ouais. Et puis, à partir de là, on se dit, ma foi, ça va bien. Marie-Françoise et moi, quand on a été invités à faire ce week-end, on ne demandait rien. On trouvait que notre vie de couple était très bien. Ouais. Notre vie de famille, en tout cas, puisqu'on est... On était plus sur la famille, justement, que sur le couple. Et c'est au cours de cette session que, on nous a aidé à remettre le nez un petit peu sur notre couple et à raviver les couleurs de notre couple. Et donc, les trois phases, ce serait la romance, la désillusion et puis ce qu'on appelle, nous, la décision d'aimer.
Voilà, alors c'est des choses dont on parle dans les préparations au mariage, donc mais c'est vrai que ça vaut le coup quand même de le redire. Alors si on commence par la connaissance de soi, quelles sont quelques-unes des clés que vous donnez? Entre autres, vous parlez, alors le mot peut-être peut effrayer certains, vous parlez de l'image de marque, c'est-à-dire en fait le masque qu'on peut avoir, l'image qu'on veut donner de soi-même. Est-ce que l'un ou l'autre veut intervenir sur ce sujet? Comment vous aidez les participants en fait à prendre conscience peut-être de cette posture qu'on peut avoir à l'intérieur de son couple? Et puis, je sais pas, comment on fait pour se démasquer justement dans ces cas-là? Marie-Françoise Crépin.
Eh bien, moi, je sais que, par exemple, par éducation et aussi par tempérament, j'ai tendance à être très au service des autres, à pas savoir dire non et à laisser passer les autres devant, parce que c'est ma façon à moi de vouloir être aimée, quoi, et d'être reconnue, d'avoir une place, voilà. Mais en fait... bon, ben, j'ai aussi ma place à prendre quand même, et entre autres dans notre relation de couple. Et donc, c'était important pour moi, effectivement, au cours de la session, d'avoir pris conscience que finalement, j'avais tendance à me mettre derrière un certain masque qui, bon, qui peut être agréable pour les autres, hein, avec le sourire, avec le service, etc. Mais qu'en fait, ça pouvait être aussi une fuite de moi-même. Et donc, ben, je suis allée voir un peu par derrière. J'ai vu que ben, c'était aussi, ça pouvait être dû à certaines blessures que j'avais vécues dans mon enfance ou adolescence. Et du coup, ben, j'ai pu les partager avec Gérard afin qu'il, à la fois, enfin, moi, j'ai appris à mieux me connaître, mais aussi que Gérard puisse mieux me connaître et mieux me comprendre.
Donc là, en l'occurrence, c'était une posture un peu malgré vous, c'est ça, c'est...
Oui, enfin, moi, j'en avais pas vraiment conscience. C'était plus fort que moi, quoi. Enfin, moi, je me mettais toujours au service des autres. Et...
Oui, est-ce que l'un ou l'autre veut réagir là-dessus ?
Voilà, et moi, Gérard, par exemple, moi, c'est davantage l'humour. Voilà, comme beaucoup, bon, ben, je fais des petites blagues, et donc ça me met de l'ambiance, mais quelque part, bon, je me cache derrière ça, et je ne me dis pas vraiment.
Voilà, donc ça c'est un exemple de masque. Est-ce que dans cette connaissance de soi, vous dites aussi que vous apprenez à nommer les participants, à nommer leurs sentiments. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a une méthode pour apprendre à nommer ses sentiments ? Vous donnez des listes de vocabulaire pour apprendre. Je sais que parfois on
c'est
fait
exactement ça.
Voilà, parfois on pousse pour apprendre exactement à dire la subtilité des sentiments humains. Alors allez-y, comment vous aidez ces couples à nommer leurs sentiments, Gérard Crapin ou Marie-Françoise ?
Eh bien, en fait, effectivement, on a des listes de sentiments qui sont donc divisés en quatre grandes listes. Il y a la tristesse, la peur, la colère et la joie. Voilà. Et en fait, on essaye d'inviter les gens à être un peu plus fins dans les sentiments qu'ils expriment, de ne pas toujours dire ben, je suis content, je me sens heureuse, je me sens triste, mais peut-être de dire ben, voilà, je me sens préoccupée, je me sens anxieuse, je me sens... Voilà. D'essayer de donner un peu une intensité de son sentiment que l'on peut parfois aussi éclairer par une image. On peut dire, eh bien, je me sens détendu comme quand nous avons passé une journée à la mer dernièrement. Voilà, pour que le conjoint, en fait, puisse comprendre l'intensité du sentiment que j'ai vécu.
Voilà. Je me sens stressé, comme quand on a été interviewé.
Une émission radio.
Voilà. Ou on peut aussi dire, eh ben oui, j'avais peur, ben oui, mais tu avais peur comment ? Ben, sur une échelle de 1 à 5, j'étais plutôt à 6 ou 7. Voilà. Mais l'idée aussi, c'est de bien dire que les sentiments, bon, il a été cité la joie, on a envie de dire positif, et puis la tristesse, la colère. Et la peur, on a envie de dire négatif. Eh bien non, ça n'est ni positif ni négatif. Ce sont des sentiments que l'on a qui remontent en nous et il faut les accepter tels qu'ils sont. Et après, bon, il faut voir ce qu'on en fait. Ça, c'est au niveau de notre comportement.
La première vertu, c'est quoi, en fait ? C'est la connaissance de soi. C'est ce qu'on disait, en fait. C'est d'apprendre tout simplement à...
Voilà, donc
à savoir ce qu'on ressent. Parce que parfois, on vit sans arriver à nommer tout ça.
À être conscient de ce que l'on vit, voilà.
Enfin, de ce qu'on ressent
oui.
Dans ce que l'on vit.
Oui.
Et dans ce que l'on vit, donc dans le concret de ici et maintenant.
Et puis de laisser tomber aussi ce masque. Pendant que vous parliez, je pensais... Pour ma part, je pense que je donne une image de quelqu'un de très assuré, de très directif, de, etc., très sûr. Et en fait, j'ai découvert que non, c'est simplement une très grande angoisse, beaucoup de craintes. Et comme bon, j'ai eu un métier, j'étais en profession libérale, donc il fallait que j'assure. J'ai eu plein de choses où il a fallu que j'assure. Et donc, j'assure. Et en fait, avec Patrick et ce week-end, on a découvert que c'était pas de l'assurance du tout, mais un bon masque et une force qui me tirait, alors que la crainte, le manque d'assurance complet me tirait vers l'arrière, quoi.
Alors, comme en écho, après avoir travaillé cette connaissance de soi, il y a donc dialogué sur ses sentiments. La première chose, donc, parmi les multiples sujets que vous abordez, j'en ai donc extrait quelques-uns. Vous parlez de l'écoute avec le cœur. Alors, peut-être on comprend ce que ça veut dire, hein, évidemment, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des techniques d'écoute, c'est pareil. Ça veut dire quoi, écouter avec le cœur ? Qu'est-ce que vous en comprenez ? Allez, je vous donne un peu la parole, Patrick Robert Crété.
Écoute, avec le cœur, ça veut dire déjà ne pas juger l'autre quand il va parler, parce que éviter de réagir pendant toute son écoute, en fait, enfin pendant toute l'écoute. Et puis ne pas dire tu aussi, ne pas réagir, et laisser complètement parler son conjoint.
Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, je sais pas, Gérard Crépin, sur cette écoute du cœur,
Oui. Et aider son conjoint à préciser son sentiment et à préciser le besoin qu'il vivait, qu'elle vivait pour moi, le besoin que Marie-Françoise vivait à ce moment-là, besoin qui n'avait pas été comblé, ou qui avait été comblé si elle était dans la joie, mais effectivement, en essayant moi de me retenir, d'avoir déjà deviné, et de lui dire je sais, c'est comme l'autre jour, voilà, tu as vécu ça, non, donc d'essayer vraiment de lui laisser la plus de liberté possible de s'exprimer elle-même, et donc de l'aider à aller jusqu'au fond d'elle-même.
Donc si je résume, en fait, c'est qu'on apprend à nommer ses sentiments, on apprend à dire ses besoins, du coup, et on apprend à écouter l'autre jusqu'au bout et à entendre, du coup, ce qu'il ressent, quels sont ses besoins. Et alors là, du coup, déjà, on a un dialogue plus qualitatif, c'est ça ? Est-ce que je suis bonne élève, Marie-Françoise Crépin ? Est-ce que je commence à comprendre ?
Oui, tout à fait. Et puis, effectivement, aussi, dans l'écoute avec le cœur, eh bien, c'est de pas chercher à donner à celui qui parle une solution. Parce que souvent, quand la personne parle, enfin quand son conjoint parle, on se dit « Ah bah oui, mais il devrait faire ceci, il devrait faire cela ». Non, en fait, on essaye de l'écouter, de l'accueillir tel qu'il est, et de bien entendre ses sentiments, ses besoins.
Alors là, finalement, c'est un peu comme quand on ouvre un cadeau. Il faut laisser l'autre ouvrir le cadeau, ou ouvrir celui qu'il nous offre, ben, c'est-à-dire il y a un papier, puis il y a un truc, et puis il y a une ficelle, et il ne faut pas intervenir, il faut laisser ce cadeau s'ouvrir, voilà, et puis on découvre, voilà, et c'est vraiment un cadeau, c'est un cadeau, cette confidence que nous fait notre conjoint, il faut le prendre comme un cadeau, on ne sait pas, et on découvre au fur et à mesure.
L'autre chose, c'est donc que vous apprenez aussi à reformuler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, une fois que le cadeau est ouvert, on dit quoi ? On dit « Ah, bah, ton cadeau est beau, merci beaucoup, j'ai compris que », c'est ça ?
Mais on peut dire « Si j'ai bien compris, tu as dit telle chose, ou tu as eu tel sentiment ». Enfin, essaye de reprendre ce que nous avons entendu, écouté, mais avec d'autres mots pour être sûr que son conjoint a bien exprimé ce qu'il voulait exprimer.
Voilà. Et ajouter « Est-ce que tu penses que je t'ai bien compris ?»
Voilà.
Et pourquoi est-ce qu'il faut ajouter ça ?
Ben parce que souvent, justement, la personne, le conjoint, est invité à aller éventuellement un petit peu plus loin. Parce que, en fait, au fur et à mesure, eh bien, quand on est écouté, on arrive à mieux percevoir soi-même ce que l'on a vécu.
D'accord. En tout cas, il faut être sûr que que l'autre s'est vraiment senti compris. C'est ça.
Voilà.
Alors, parmi tous ces petits, enfin, c'est pas ces outils, on commence à comprendre un peu le cheminement que vous aidez. Je vais y arriver. Le cheminement que vous faites avec ces couples. Il y a entre autres, vous parlez des quatre familles de sentiments. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que ces quatre familles de sentiments qui, donc, j'imagine, enfin, existent en dehors des sessions vivre et aimer et qui peuvent déjà peut-être mettre en bouche nos auditeurs ou leur donner quelques clés.
Voilà, donc c'est pas vivre et aimer, effectivement, qui a inventé les quatre listes de sentiments. On les retrouve d'ailleurs dans ce dessin animé là. Comment ça s'appelle déjà, si je me souviens?
Peu importe, allez-y, continue, parce qu'on est en direct, vous n'avez pas le temps de faire un effort de mémoire.
et donc, effectivement, la joie, la tristesse, la colère, la peur. Alors, heureusement, dans la joie, la liste des sentiments qui est disponible, qui est listée, ben, elle est beaucoup plus longue que dans la tristesse, la peur et la colère. Voilà. Mais voilà les quatre familles de sentiments tous nous vivons à un moment ou à un autre, et on les vit tous en série dans la journée à vitesse grand V, mais il y en a qui vont nous marquer plus effectivement dans la journée, surtout quand on a eu une tension avec notre conjoint.
Une chose est rassurante aussi, c'est que d'emblée, on nous dit un sentiment n'est ni bon ni mauvais. Et ça nous est répété assez souvent. C'est tout. On le ressent.
Oui,
on
le ressent. Vous l'avez répété déjà plusieurs fois, mais oui,
voilà.
C'est,
et donc,
c'est important.
Ah oui, c'est très important parce qu'on a une petite tendance au départ à se critiquer et que voilà, ben c'est ni bon ni mauvais, c'est ce qu'on en fait, c'est comment on le partage et comment on le.
Alors, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale et que je donne les dates de la prochaine session, il y avait déjà une dernière question, c'est que parmi toutes les choses auxquelles vous invitez les couples à parler, enfin tous les sujets auxquels vous les invitez à parler, oui, il y a donc entre autres évidemment les questions de sexualité, mais aussi j'ai noté par exemple la mort. Ça m'a frappé parce que c'est vrai que peut-être que c'est pas très habituel en couple de parler de la mort. Ça veut dire quoi en fait derrière ça ? C'est-à-dire que vous invitez à, je sais pas, à parler des choses essentielles de la vie. On commence à faire quoi ? Un peu de philo en couple. Et quel est l'intérêt en fait de parler ces sujets, entre autres de ce sujet de la mort, Gérard oui. Crépin ?
Non, alors ça n'est pas pour philosopher dessus, mais effectivement il y a un couple qui est en général le couple le plus âgé qui témoigne, voilà, et bien qui dit comment voilà, il commence à réfléchir effectivement, bon ben un jour je vais probablement me retrouver seul, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi, on ne sait pas, mais quand je réfléchis à ça, ben je vis des sentiments, et puis ben oui, être capable de commencer à en parler et à échanger dessus. Voilà, c'est pour dire que on peut aller jusque là aussi dans la rencontre de l'autre.
Je vois que le côté de toi qui rit, montre-moi le côté qui pleure. Montre-le-moi, je t'en supplie, c'est trop fragile ce bonheur. Je vois que le côté de toi charmeur, montre-moi le côté vieilli. Montre-moi le côté qui meurt de s'être blasé de la vie. Je vois que le côté de toi gentil, montre-moi le côté menteur. Dis-moi que tu m'auras trahi, montre-moi toutes tes erreurs. Je vois que le côté de toi rêve, montre-moi le côté pratique, montre-moi l'envers des couleurs et dis-moi que rien n'est magique. Je vois que le côté de toi qui m'aime, montre-moi celui qui en doute. Dis-moi les femmes par dizaines qui te feraient quitter ma route. Je vois que le côté de toi fait tard, montre-moi le côté qui boude. Celui qui a plus le goût de me voir, le tonnerre après le coup de foudre. Je vois que le côté de toi patient, montre-moi le côté qui rage, le côté qui grince des dents et qui en peut plus de mon bavardage. Je vois que le côté de toi brûlant, montre-moi le côté glacé. Jette-moi cet œil indifférent que ton clin d'œil veut dissimuler. Centre de ta cible, que mon regard puisse y plonger. Je vois que le côté de toi jaseur, montre-moi l'or de ton silence. Fais-moi de la place à l'intérieur de tout ce que t'es qui n'a pas de sens. Je vois que le côté de toi qui gagne, montre-moi le côté perdant. Montre-moi ta honte t'es ta hargne et tes plus vilains sentiments. Je vois que le côté que je veux bien voir, impose-moi l'autre s'il te plaît. Je voudrais, avant qu'il soit trop tard, te dire je t'aime pour de vrai. Présence à Super Bagnères 94.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église sur Vivre et Aimer, un mouvement au service des couples. Si vous nous prenez en cours de route en cette fin d'émission, je vous rappelle que nous sommes donc avec Marie-Françoise et Gérard Crépin qui sont responsables de Vivre et Aimer pour Midi-Pyrénées et Anne-Marie et Patrick Robert Crété qui sont un couple donc membre de Vivre et Aimer, que Vivre et Aimer est donc un mouvement d'église né, on va dire, en Espagne dans les années 60 et qui aujourd'hui existe sur les 5 continents et dans 70 pays, déjà suivi par, combien vous disiez, 600 000 couples, c'est ça ?
600 000 couples, oui.
600 000 couples depuis ses débuts, qui est ouvert à tout le monde, y compris à des couples qui ne sont pas spécialement chrétiens, catholiques pratiquants, etc. Puisque donc, on l'a vu dans cette deuxième partie, c'est une méthodologie, comme on dit, par le bas. C'est-à-dire, on part de la vie, et puis peut-être à l'intérieur de cette vie, après, on arrive à y trouver la trace de Dieu. Je donne la date de la prochaine session, et je la redonnerai à la fin, le vendredi 10 mars prochain, donc au centre de la Molle à Montauban. Et puis il faut préciser aussi donc qu'il y a on va dire deux formules, on l'a dit mais ça fait du bien de le redire. Il y a une formule pour les futurs couples qui s'appelle Amour et Engagement, et il y a une formule pour les couples prêtres et religieuses, religieux et religieuses, qui s'appelle Vivre et Aimer. Vous avez une précision, Gérard?
C'est une précision à apporter par rapport aux dates de la session. Effectivement, c'est vendredi 10 mars, mais c'est le vendredi soir, hein, à partir de,
sans doute, hein,
de 20h30. Non, mais ça va sans dire, il vaut mieux le...
Je le redirai le plus voilà. Précisément à la fin.
Et jusqu'au dimanche, en fin d'après-midi.
Je redirai tout à la
et
fin.
Et ça, c'est la session Vivre Aimer, tandis que la session Amour-Engagement a lieu le week-end qui arrive, là, du vendredi donc 10 février au dimanche 12 février à Gradignan.
D'accord, alors ça je ne l'avais pas, donc vous faites bien de le dire et on redonnera toutes ces informations à la fin. L'idée après, on a compris entre les lignes un petit peu ce que vous viviez, mais peut-être pour finir de décider les couples qui nous écoutent ou qui nous prennent en cours de route, est-ce que vous pouvez nous partager un peu vous ce que vous avez vécu? Alors on va commencer avec vous, Anne-Marie et Patrick Robert Crété, est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'avant, le pendant et l'après, c'est-à-dire... je sais pas comment allait votre couple avant. Alors vous nous partagez évidemment ce que vous pouvez, hein. Et qu'est-ce que vous avez compris pendant cette session? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? On va commencer par vous, Anne-Marie.
D'accord. Alors nous sommes rencontrés. J'avais déjà 32 ans et Patrick en avait 28. Si on peut dire, nos origines étaient assez éloignées l'une de l'autre, et malgré
origine géographique ou
origine sociale. Origine sociale. Et donc, ça, c'est sûr que ça nous a obligés à beaucoup réfléchir, à se poser beaucoup de questions. Et bon, l'amour était là, les projets étaient là, et on s'est mariés. Et petit à petit, on s'est rendu compte que le ton, le vocabulaire n'était pas le même chez Patrick et moi-même. C'est-à-dire, on employait certains mots et qui n'avaient pas la même résonance chez l'un et chez l'autre, d'où des tensions. Moi, j'ai déjà dit aussi que du fait de mon métier, de mon angoisse, j'étais très tendue, souvent un peu autoritaire. Et donc là, j'ai découvert que j'avais honte, par exemple. Il y avait des altercations et j'avais honte. Et donc, je m'écroulais. Je commençais à parler alors plus calmement, avec une voix un peu plus douce, etc. Mais ça ne changeait strictement rien à mon bouillonnement, à mes colères, à mes insatisfactions. Il entendait une voix plus douce, mais ça ne changeait rien à l'intérieur. Et donc, j'ai appris à ne pas avoir honte. J'étais comme ça et il fallait que j'arrive à expliquer, à rechercher
dans mes racines. Vous aviez honte de ce que vous étiez, en fait, c'est
oui,
ça
ou... oui, d'être vive, d'être un peu colérique. hystérique, de réagir au quart de tour, un peu pressé, un peu bousculé, alors que Patrick est un grand calme. Je pense que c'est pour ça qu'on est ensemble depuis 30 ans. Et voilà, mais j'avais honte, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir honte, et c'est une mauvaise... en tout cas, c'est un mauvais guide d'avoir honte. Et donc, j'ai appris à cette session...
Alors, qu'est-ce que vous avez découvert pendant cette session, du coup, en fait,
c'est... Eh bien, qu'il fallait que...
Déjà, vous avez réussi à mettre des mots, en fait,
sur
ce que vous
venez
d'écrire.
Alors, déjà, mettre des mots sur ces sentiments, et puis voir en quoi ils pouvaient être négatifs, et comprendre qu'il suffisait simplement que je lui explique ce qui m'avait fait réagir, et peut-être une autre façon de m'aborder, lui proposer une autre façon de m'aborder, pour que, voilà, je ne sois pas piqué au vif, ou et là on est arrivé à bien proposer. Et puis par exemple, une autre chose aussi qui m'avait frappé quand on s'était rencontrés, je vous ai dit nos âges, et Patrick m'avait dit, ben on a sûrement un jardin secret chacun, on ferme la porte. Et là j'ai appris
à vivre la porte du jardin secret.
De nos jardins secrets à chacun. Ça voulait dire mettre beaucoup de silence sur notre passé, sur notre vie de famille, sur nos vies, nos aventures, nos déboires. Et là, à vivre et aimer, j'ai appris que dans le couple, il ne faut pas un déballage. Ce n'est pas un déballage. Mais il faut avoir le courage de sortir de ce jardin secret les éléments qui font qu'on est comme ça aujourd'hui, et que là, maintenant, je viens de réagir à ce que Patrick vient de me dire et qui réveille, en fait, une souffrance, une blessure, une déception que j'avais déjà eue. Et donc, il faut avoir le courage de garder ce jardin et d'en sortir les fleurs, les épines, les fleurs fanées, mais pour expliquer à Patrick ce qu'il vient de toucher en moi en disant tel ou tel mot, ou en me demandant telle ou telle action. Fais ça, et je peux pas, oui, parce que, voilà. Et j'explique pourquoi j'ai mes limites, pourquoi j'ai mes faiblesses, et pourquoi du coup je me cache derrière beaucoup d'agressivité ou beaucoup de vivacité.
Et tout ça, justement, sans poser vous-même de jugement sur ce que vous ressentez.
Voilà.
Et puis en ayant le temps de dire tout ce que vous avez à dire.
Je n'ai plus à poser de jugement, c'est une perte de temps. Alors qu'il vaut mieux revenir en soi et se dire, mais qu'est-ce que ça a touché en moi ? Ah oui, tel souvenir.
Patrick, Robert Crété, vous, si vous deviez partager, le grand calme, alors. Les grands calmes n'ont pas de problème, ou n'ont pas de limite, si.
Alors moi, je suis plutôt dans un caractère calme, donc, et réservé. Je suis un peu à l'opposé d'Anne-Marie, qui est plutôt vive, enthousiaste, et avec une très forte personnalité. Et plus que la différence de milieu, je dirais que c'est plus le caractère qui était, nous avions une relation plutôt déséquilibrée. Moi, j'avais peur du conflit, j'avais peur des tensions entre nous, donc souvent je me taisais. Mais donc ce week-end nous a appris un peu, donc d'abord à dire mes sentiments, parce que étant moi issu d'une famille de trois garçons où on ne parlait pas de nos émotions ni de nos sentiments, j'avais beaucoup de mal à dire à Anne-Marie ce que je vivais, ce que mes soucis. Ce week-end a été bénéfique pour moi et pour notre relation. J'ai appris aussi, pas que le week-end, mais je veux dire un peu par la suite aussi, à réfléchir sur sa connaissance de soi, effectivement, et mieux te connaître toi aussi, en fait, Anne-Marie. Mais ça n'a pas été facile pour moi ce week-end, parce que je me rappelle, j'ai un peu traîné des pieds pour y aller, parce que toi tu disais ça va nous faire du bien. Moi, il me semblait qu'on n'avait pas de gros problèmes à l'époque. Effectivement, on avait des problèmes, effectivement, de dialogue approfondi, je dirais. Et ce week-end a permis de créer de nouvelles tensions, bien sûr, après le week-end, et d'approfondir un peu plus à l'essentiel,
Donc, si
tout en se respectant.
Si oui. Je résume, donc vous aviez pas trop envie d'y aller. Est-ce que vous avez découvert quoi ? C'est votre difficulté en fait à parler de vous, à dire vos sentiments.
Oui, c'était ma difficulté à m'exprimer en fait, à exprimer ce que je mon vécu, ce que je ressentais. Je n'étais pas du tout habitué. Chez nous, on n'en parlait pas. Ça a permis effectivement cette découverte. Et ça a rééquilibré notre relation.
Alors moi, juste, excusez-moi, j'ai une question, parce qu'un week-end, c'est court quand même. On en fait quoi ? On en fait 5, 6 des week-ends, en fait. Une fois qu'on a fait le premier, après, on se lance dans un mouvement. Parce que alors 48 heures pour apprendre à nommer ses sentiments, à écouter l'autre, à dialoguer, ça fait quand même court, non ? C'est Gérard Crépin.
Donc vous avez une très bonne question.
Merci, je vous remercie de justifier mon salaire, mais le mieux c'est que vous répondiez à la question.
Alors je vais essayer. Eh bien effectivement, 48 heures c'est court. En même temps, bon, c'est 48 heures qui sont bien chargées, bien remplies. Hein. On en sort fatigué, mais heureux. Hein. Et bon, ensuite, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ben, déjà, il y a des choses qu'on a découvertes et qu'on n'oubliera pas. Comme le fait, par exemple, que les sentiments ne sont ni bons ni mauvais. Comme le fait qu'il s'agit de temps en temps de décider d'aimer.
D'accord, mais ça ne répond pas à ma question. Répondez à ma question si voilà. La question est bonne.
Eh bien, c'est qu'il est proposé au couple et aux prêtres qui ont vécu la session, eh bien de continuer justement à réfléchir sur tout ça, mais c'est cette fois-ci dans un rythme beaucoup plus posé et de pouvoir aller justement aussi plus profondément. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui ont vécu la session et qui ensuite se disent « ben oui, on va entrer dans ce mouvement, dans les deux sens du terme, parce que ça va être... »
Alors en quoi ça consiste après ? Quoi, on se voit une fois toutes les semaines, une fois par mois ?
Environ une fois par mois, une fois par mois et demi. Donc, en général, trois couples, dont un couple expérimenté déjà dans le mouvement, et qui va donc nous aider à préciser les choses, voilà, moi, par rapport à Marie-Françoise, ou réciproquement, voilà, nous aider à entrer plus en profondeur en nous-mêmes et dans notre couple. Voilà. Il ne s'agit pas, comme disait Anne-Marie, de déballage.
Voilà, merci beaucoup. On va dire, pour finir, donc, on va rappeler les prochaines dates, donc rappeler la date du prochain week-end, alors, qui est Amour et Engagement, c'est ça ?
Pour le week-end Amour et Engagement, il va avoir lieu ce week-end qui arrive, donc du vendredi 10 février à 20h30 au dimanche 12 février vers les 17h à Gradignan.
Voilà, ça c'est pour les futurs couples, et donc il y a une session Vivre et Aimer pour les couples qui ont plus de 3 ans de vie commune, et aussi pour les prêtres religieux et religieuses, du vendredi 10 mars à 20h30, au dimanche 12 mars à 17h, au centre de la Maule à Montauban. Merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler ce matin de vivre et aimer, et donc longue vie au couple, et même si la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, c'est une belle croisière, si je peux prendre cette image, peut-être pas des plus heureuses, mais en tout cas c'est la seule que j'ai trouvée. Merci beaucoup, cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.